podcast.
Vingt-et-unième épisode de la saison du podcast Radar. Content de vous retrouver cette semaine. J'étais absent la semaine dernière et j'ai été remplacé de main de maître de la part d'Olivier Paiement. Comment ça va, Olivier?
Ça va très bien. Merci pour la belle opportunité que tu m'as donnée la semaine passée. Et là, j'attends tes excuses.
Qu'est-ce que j'ai fait encore?
Patrick Laine, on est à 24 heures de la date limite des échanges. Il n'a toujours pas été échangé.
T'as raison. J'étais dans l'erreur. Mais écoute, j'espérais des fois, non mais un peu de projection,
ben oui,
des
ben
pensées
oui.
positives, ben peut-être oui. que ça va nous permettre de... Il croit, premièrement, salut Hugo.
Salut les boys, ça va?
Y croyez-vous encore qu'il pourrait quitter Laine?
Je pense que oui, je pense que c'est juste une question de circonstances par rapport à son confort, où il veut aller, puis s'arranger, que comme la suite des choses va être fluide, la transition va bien se faire. Là. Je pense que c'est vraiment plus une question de ça. Fait que oui, là, je pense
comme
que
j'avais dit il y a deux semaines, ça va être à... 15h moins quart de la date limite des échanges.
Ouais, t'as
les
raison.
Kings, probablement.
T'as raison. T'as raison, puis tu vois, ça me rappelle un peu ce qui est arrivé avec Philippe Dano.
Ouais.
Dano, avant
le gel des fêtes.
Ouais. Oui. Ah oui, des fêtes, t'as raison, des fêtes.
23 décembre.
T'as raison, des fêtes. On est un peu coincé, on le fait pas jouer, on dit qu'il est malade, puis là, finalement, on est plus ou moins satisfait peut-être du retour, et finalement, on craque à la dernière seconde et la transaction a lieu. Peut-être que ce sera ça, surtout compte tenu du fait du prix présentement à travers le marché. Laine, Kent Hughes n'est pas gourmand. Je suis convaincu que Kent Hughes veut juste le laisser partir. Fait que, considérant ce qui se donne présentement en termes d'actifs à travers la LNH, si tu as une option d'un joueur qui peut venir dynamiser ton avantage numérique, oui, en termes de sous, en termes d'espace sur la masse, c'est vrai, c'est quand même un impact important, mais en termes d'actifs qui ne coûtent rien, d'après moi, il y a une équipe qui va mordre dans le son.
C'est sûr.
Surtout que si tu regardes, quand même, depuis une semaine, là, il y a moins de transactions que d'habitude dans les jours qui précèdent une date
c'est
limite
vrai.
Normale.
C'est vrai que tout le monde attend, on dirait.
Il y a moins d'échanges. Fait clairement, il y a des équipes qui ne sont pas capables de mettre la main sur ce qu'elles veulent. Donc, il y en a qui vont arriver à la date limite dans les dernières minutes, puis se dire, ben regarde, rendu là, je vais le prendre Patrick Laine. C'est mieux que rien. T'sais, je peux nommer des noms en rafale d'équipes qui ont juste besoin de ça. Là. Peut-être un petit punch en attaque. J'ai parlé des Kings de Los Angeles, le Kraken de Seattle peut-être aussi.
Mm-hmm.
Une équipe comme les Hurricanes de la Caroline, peut-être même les Red Wings de Détroit. Rendu là, tu peux même le donner à ton rival de division, c'est pas grave.
Prenez-les! Mais ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que c'est un peu plus tranquille. Et là, on enregistre, il est 11h10 jeudi matin.
Ouais.
Précisons-le, parce que peut-être qu'avant la sortie de l'épisode, il y aura d'autres transactions.
Ouais.
Vous comprendrez pourquoi on n'y parlera pas. C'est plus tranquille, je pense, parce que tout le monde est en mode attente. Tout le monde regarde les Blues de Saint-Louis et Robert Thomas, le gros domino. Je suis convaincu qu'il y a plein de directeurs généraux qui suivent la situation et qui espèrent être capables d'aller chercher ou juste de voir, OK, ben si Thomas est échangé là, ça fait en sorte que tel joueur devient disponible. Tu sais, ça va comme créer un effet d'enchaînement, à mon avis, cette situation-là. Un peu comme on l'a vu hier. Lorsque Parayko s'est sorti, dans les minutes suivantes...
Ou même Tyler Myers
a été un atout qui a quand même fait déborder le vase pour certains. Parce qu'après ça, il y a eu comme une mini avalanche là, de trades qui sont sortis après.
Exact, mais c'est le classique. Là.
Ouais.
Comme
ouais.
en 2023 avec les gardiens.
Ouais.
C'est l'année de Fowler.
Ouais.
Un gardien sort, bon. Tous les gardiens sont sortis. Ben là, c'est le festival du défenseur droitier.
Mm-hmm.
C'est Connor Murphy... Ça a été Tyler Myers, le Colton Parayko, puis tout de suite, OK, Utah.
Uyghur.
On n'y est plus que la POC. Uyghur.
Exact.
Ça a pris quoi? 15 minutes après, trois choix de deuxième tour, Ali Mata et Jonathan Castagna pour aller chercher Uyghur. Fait que clairement, là, on le sait que c'est un peu pauvre, je pense, à cette position-là. Alors, les équipes n'ont pas peur de le surpayer pour aller chercher.
Ouais, puis là, quand tu regardes le fameux profil du défenseur droitier, un profil que le Canadien s'intéresse clairement à ça, ou c'est un besoin, en tout cas, il en reste plus énormément, là. Parayko, ben, c'est qu'il va être échangé, c'est clair. Mais sinon.
Mais c'est-tu clair que ça va pas flou, par contre?
Non.
Ben là, c'est ça, là. Là, avec la clause, on sait pas ce qui va se passer.
Plus
c'est
le
long,
temps
là.
Passe, plus.
C'est vraiment long, là.
Moi, je serais inquiet si j'étais Buffalo, là.
Moi, je serais inquiet si j'étais Saint-Louis.
Pourquoi?
Ben là, tu peux te retrouver dans une situation où est-ce que tu te sens obligé de l'échanger. Vas-tu te retrouver à être l'échanger un peu plus faible?
Ouais.
Puis même, t'as raison, c'est pour Buffalo. Comment tu vas te sentir envers Radim Merka?
Exact.
L'espoir qui, lui,
ouais,
est comme, OK, là, vous m'avez repêché quand même assez haut, 9e. Là, vous voulez plus de moi. T'sais.
C'était ouais. arrivé dans la NBA l'an passé. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps des parallèles de NBA dans cette émission.
Un vrai connaisseur.
Moi, c'est vrai que t'es vraiment un connaisseur.
J'en fais jamais à la radio, mais dans ce podcast, j'en fais tout le temps.
C'est à l'aise.
Mark Williams avait été échangé aux Lakers à la date limite, c'était un centre. Puis là, il passe quelques journées avec les Lakers puis tout, puis ils font passer un examen médical genre 3 jours plus tard, puis il rate son examen médical, fait que finalement la transaction est refusée.
Exact.
Pour des raisons médicales, il retourne aux Hornets, puis ça avait comme créé plein de brouhaha avec les joueurs qui avaient été impliqués. Damn. Ça fait mal à ton orgueil pareil. Ouais,
on s'est mis Dadonov il y a quelques années, ouais, la fameuse close. Ouais. Il était retourné à Vegas, il avait rien voulu savoir. Il avait un gros but important.
Oui. Pour c'est vrai, en parlant dehors des ondes, mais un peu plus tôt, Nomar Garciaparra avec les Red Sox, t'avais échangé contre A-Rod, puis que finalement ça n'a pas passé, puis Garciaparra. Ça s'était mal fini aussi là, avec l'organisation. Là, il revient au camp d'entraînement. Écoute, c'était l'enfer.
Me permettez-vous une petite montée de lait?
Vas-y.
Go. Un petit peu de difficulté avec les informateurs. Et je comprends qu'ils ont un travail à faire, puis c'est tout à fait normal de rapporter les nouvelles. Et on aime tous ça là, quand il y a des tractions.
Ouais. On salue d'ailleurs Pierre Lebrun, l'inventeur de Radar.
Oui,
exact, c'est vrai.
Notre ancien collègue. Salut, j'adore beaucoup. Salut, soit dit en passant, c'est vraiment super une super personne. Puis on ne travaille plus ensemble parce qu'écoute, ça ne fonctionnait plus niveau. Logistique, mais c'est pas grave, ça reste que c'est un super être humain et puis il est vraiment cool. Mon point étant que des fois, il y a beaucoup de « je présume » ou « je devine » ou « je lance des noms dans les airs » et encore plus là avec des clauses.
Mm-hmm.
Uyghur, ça a été long. Parico, au moment où on se parle, c'est pas encore réglé. Manjapané avait une clause. Myers était échangé à Détroit, finalement, il a refusé. Ça met énormément de pression sur le joueur. Tu sais, pour nous, là, c'est des fichiers Excel.
Ouais.
Mm-hmm. Pour nous, c'est du PlayStation, c'est comme un s'en va là. Mais pour eux, le Parico, là, c'est une décision de plusieurs années. J'ai-tu envie d'aller poursuivre ma vie à Buffalo? C'est Et ça. Là, non seulement il doit penser à ça, mais toute la planète hockey est au courant. Je trouve que ça amène une pression et une position délicate qui n'est pas nécessaire.
C'est vraiment intéressant ce que tu apportes parce que c'est comme si... C'est vraiment nouveau, là, cette culture-là du insider, on s'entend... Ça vient avec les réseaux sociaux, avec Twitter. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Tu avais des journalistes qui couvraient puis qui avaient des scoops, mais ça sortait genre dans le journal le lendemain matin ou à la radio ou peu importe. Mais maintenant, avec cette culture-là du insider, puis tu le vois dans tous les sports avec des personnes différentes, c'est une course à être le premier.
Exact.
Et c'est immense pour ta réputation en tant qu'insider d'être le premier sur la nouvelle, d'avoir raison d'abord et avant tout, mais c'est surtout le principe d'être numéro un où là, c'est toi qui vas avoir le plus de partage, le plus de j'aime, le plus de crédit. Puis nous autres, à travers tout ça aussi, on est un peu coupables de ça parce que nous autres, quand on voit une rumeur d'un insider ou un ci ou ça, on prend ça comme si c'était du crack. Ben là,
on
adore ça. Tiens, injecte-moi ça dans les veines, mais s'il te plaît.
Je veux
des scoops. Puis... Des fois, c'est absolument n'importe quoi, mais ça fait partie de la réalité de l'écosystème médiatique dans lequel on vit aujourd'hui. Puis je pense pas que ça s'en va nulle part.
Vas-y, Hugo.
Non, mais j'allais juste dire que tu as deux types de mentalité aussi après ça. Tu vas avoir peut-être des insiders avec une réputation ou de l'expérience qui vont s'assurer de la source pour être sûr de sortir l'information. Puis tu en as d'autres qui vont juste tendre plein de lignes à l'eau.
Ouais.
Ils vont faire comme je m'en fous du résultat.
T'as très raison, Hugo.
C'est un énorme fléau aussi. Ouais. Là, parce que là, tu lances 60 lignes à l'eau, tu frappes une fois, puis là, tu le remets dans la face de tout le monde.
Je l'avais dit. Ouais. Exact.
Puis tu as raison, Oli. Peut-être que je suis un peu hypocrite parce que je parle des deux côtés de la bouche. Il y a une partie de moi qui est content de voir des rumeurs, mais pour moi, dans un contexte de close comme ça, je sais juste que je trouve que ça met une pression sur le joueur. Et il y a d'autres moments où est-ce que sortir des scoops, c'est complètement inapproprié. Je n'aimerais pas de nom, mais on se souvient déjà de quelqu'un qui a avancé que l'entraîneur-chef était congédié pendant un match. L'entraîneur n'est pas au courant, il est en train de diriger un match et là, le scoop est sorti sur Internet pour dire... L'entraîneur-chef est congédié. Je me souviens de Frank Cervelli.
Le fameux d'expansion au complet.
Au complet, du Glacier.
C'est tellement anti-spectacle.
Anti-spectacle. Aucun intérêt. Quand le Canadien repêche, le nom que le Canadien s'apprête à repêcher sort 30 secondes plus tôt sur Twitter. Je m'excuse. Je veux pas le savoir 30 secondes plus tôt.
C'est mauvais pour la business.
Je veux le vivre.
Ouais,
pour moi, le sport, c'est de la passion et c'est des émotions. Mm-hmm. La raison pour laquelle j'aime ça, c'est parce que il y a l'euphorie du moment et il y a aussi le cœur qui se fend en deux, comme on a vu aux Olympiques. Là. C'est pour ça le sport, moi j'ai ça dans les veines puis ça me coule en dedans. Mais il n'y a pas de passion de savoir 30 secondes plus tôt que le Canadien repêche Cole Caulfield, Caden Goulet ou David Reinbacher. Je veux l'entendre de la bouche, puis je veux le vivre en direct.
Mais ça revient beaucoup à la culture de l'instantanéité, du « je veux ça maintenant » dans laquelle on vit. Notre attention est courte, on veut tout le plus rapidement possible. Maintenant, il y a des livraisons avec Amazon, des affaires de même, ça arrive la journée même. C'est un peu un symbole du monde dans lequel on
est. Ouais, c'est ça. Puis mine de rien, on travaille quand même dans le domaine où on a besoin d'avoir la nouvelle rapidement pour être capable de...
On n'a pas le choix, parce que sinon, on ne fait pas notre travail.
Exactement.
Parce que
exactement.
Si nous, on ne le fait pas, d'autres vont le faire, puis nous, on passe pour c'est des ça. Incompétents.
On passe c'est pour ça. Ceux qui sont en retard. C'est ça. Et les gens deuxième. Vont aller vers une autre source. Ah, ben, je comprends. C'est pour ça que je dis je me sens un peu hypocrite. Je comprends que... Il y a tellement maintenant, tu sais, des informateurs, il n'y en a pas juste deux, là.
Non.
Il y en a 50, là.
Mais puis après ça, tu en as des locaux là. Aussi dans chaque ville.
Exact.
Puis...
Fait que là, c'est sûr que c'est une course. C'est normal que tout le monde veut sortir ça le plus vite possible. Mais d'un fois, j'aimerais tout mettre ça sur pause, mm-hmm. puis juste profiter du moment. C'est pour ça que les repêchages, là, quand on les fait ici à BPM, je ne regarde pas mon téléphone, là.
Ouais.
Je ne cherche pas à savoir à l'avance qu'est-ce qui s'en vient. Je veux le vivre. Je veux savourer le moment. Puis des fois, avec la date limite, ben, ça amène un petit peu cet aspect-là qui est négatif. Les gars, plusieurs transactions qui ont lieu quand même dans les dernières heures, pendant le temps d'en regarder une coupe, puis après ça, on ira voir les projections de ce qui pourrait s'en aller dans les 24 prochaines heures.
Mm-hmm.
Colton Parayko échangé au Sabre de Buffalo. Si la transaction a eu lieu, c'est quand même un fort prix qu'on paye du côté des Sabres. Radim Merka, il a un choix de premier tour. Moi, j'aime beaucoup Merka. Moi, je pense vraiment qu'il a un bel avenir dans la Ligue nationale de hockey. Du côté des Sabres, c'est maintenant que ça se passe. Là.
Mm-hmm.
Ben, sentez-vous un petit peu la pression de ce marché-là qui a raté les éliminatoires pendant 14 ans, puis on veut pas niaiser avec la rondelle.
Mais tu sais, oui puis non. Je pense que de se qualifier en série, là, à ce point-ci, t'as pas le choix, puis c'est un échec lamentable si tu le fais pas. Mais une fois que les Sabres rentrent en série, puis que le 14 ans, la disette, c'est fini... Rendu le, whatever happens, happens. Là. T'sais, que les
c'est déjà la victoire
d'être en série. Ronde, ou gagnent la coupe, ça revient un petit peu au même. De, au moins, t'as enlevé cette pression-là de ton dos de ne pas faire les séries. Puis à court, moyen, long terme, ça va être une équipe dangereuse. Puis s'ils font vraiment l'acquisition de Parayko, pour moi, en ce moment, j'ai mis numéro 2 dans l'Est derrière le Lightning.
C'est intéressant ce que tu viens de dire. Je suis d'accord jusqu'à un certain point. Parce que les Maple Leafs de Toronto, la fameuse disette de passer la première ronde, là, on s'en souvient, là, ça date de 2004.
Ouais.
Depuis, ils ont atteint la deuxième ronde deux fois.
Exact.
2023 et 2025.
Mm-hmm.
Sauf que les deux fois, en deuxième ronde, ils ont fait patate.
Ouais, ils ont choqué encore.
Mm-hmm. Et c'est comme s'ils n'ont pas été capables de se sortir de ce marasme-là. Fait que même si les Sabres réussissent à faire les séries, c'est sûr qu'on est très contents du côté de Buffalo. Mais tu te fais sortir en 4 ou en 5.
Ouais.
Tu sais, je pense qu'il va avoir encore un défi inaccompli, là.
Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment à l'avantage des Sabres, là, cette saison. C'est que, un, présentement, l'énergie à la maison est complètement folle. On sait que les fans de Buffalo, quand ça va bien, ils peuvent embarquer, là. C'est quand même un état de hockey, là. C'est une ville, ils aiment ça. Puis, non seulement ça, mais depuis le début de la saison, les Sabres, c'est une des équipes qui ont eu le plus de séquences victorieuses. Puis ça aussi, ça peut être à leur avantage, générer du momentum, puis être capable de gagner plusieurs matchs en ligne en série, tu sais. Ils le font depuis la pause olympique, ils sont rendus à 5 au moment où on enregistre l'épisode, mais ils l'ont fait un peu plus tôt dans la saison, ils ont gagné 10 en ligne. Fait que ça fait en sorte que, ben ça, c'est juste un beau mélange là, pour connaître du succès plus loin.
Puis tu sais, honnêtement, là, regardons à travers la ligue, où est-ce que vous classez la ligne bleue, la défensive des Sabres de Buffalo?
Numéro 1.
Ben oui, elle va faire peur, moi aussi. Là, c'est numéro 1.
Tu sais, Dallin Power, deux premiers choix au total. Dallin, pour moi, c'est un défenseur facilement top 10 dans la ligue.
Ouais, pas Power, par contre.
Pas Power, mais ça reste un premier choix au total. Il y a le potentiel.
Il est gros.
Bowen Byram, Samuelson. L'an passé, t'ajoutes Kesselring, puis là, Parayko. Ils sont tous 6 pieds 1 ou plus. Mm-hmm. Ça, en série, justement, quand tu vas avoir une équipe comme le Lightning. Déjà que les Sabres, c'est une des équipes les plus pesantes, les plus lourdes. T'ajoutes un gros morceau à ça.
Puis Byram et Samuelson, deux joueurs hyper talentueux, fragiles.
Oui.
S'ils sont en santé, c'est vraiment une brigade défensive incroyable.
Ouais.
Mais fragile.
Mais fragile.
T'sais, fait que c'est pour ça qu'au début de la saison, on avait encore des points d'interrogation. Samuelson a de la difficulté à rester en santé. Puis c'est la même chose pour Bowen Byram.
C'est vrai. Byram a été important, par contre, quand l'Avalanche a gagné la Coupe en 2022. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va se passer.
Très jeune.
Très jeune.
Un peu comme Newhook.
Un peu comme Newhook, qui est arrivé. C'était leur première année, je pense, aux deux. Puis, non, ça va être intéressant. Puis c'est de la lourdeur. Puis ce que j'aime, c'est que non seulement ils sont gros puis ils sont lourds, mais ils ont toute une complémentarité. Tu sais, il y en a qui sont un peu plus offensifs, il y en a qui sont un peu plus shutdown. C'est vraiment intéressant, sérieusement.
J'ai un échange, les gars.
Oh, c'est vrai?
Ça vient de tomber pendant. Maintenant, c'est officiel. Là. Nick Dowd qui s'en va à Vegas. En retour, c'est le gardien Jesper Wickman, un choix de 3, un choix de 2 aux Capitals.
Ah, quand même. Un bon quand retour. Même. Intéressant.
Je ne connais pas Wickman, je vous étonne.
Non, moi pas non plus, pour étonner, je ne le connais pas, non mais Nick Dowd, des le digne successeur de Nicolas Roy, là, je pense qu'on peut affirmer ça. Là.
Oui, oui.
On a laissé partir Roy à juste titre là, dans la transaction Mitch Marner. Mais là, on va rechercher quelqu'un d'expérience qui en a vécu d'autres, qui est capable de s'imposer gros gabarit aussi.
Gagne la coupe.
Vic Mann, gardien de la Ligue américaine. Rien pour écrire à sa mère. En gros, on va dire un choix de 3, un choix de 2 pour Nick Dowd. Quand même une bonne acquisition pour Vegas.
Je pense que oui. Ouais. C'est pas un mauvais retour non plus là, dans les circonstances. Non. Là, ben Nick Dowd. Là.
Ben, c'est un gars de bottom six qui est quand même important, un des meilleurs de la ligue selon moi. Fait que, oui, donc, il faut quand même que tu donnes. Faut que tu donnes un peu plus, mais c'est quand même à sa juste valeur dans le sens que Dowd, il va t'en apporter quand même du concret puis il va bien le faire. T'sais.
Mm. Les gars, juste avant, là, on restera sur Nick Dowd dans deux secondes. Là, je vais juste poursuivre. Logan Thompson, mais Tage Thompson, 6-6, Alex Tuck, 6-4, Ryan McLeod, 6-3, Josh Norris, 6-2, Jordan Greenway, 6-6,
ouais.
Josh Jones, 6-2, Beck Malenstein, 6-3, et Eko Pekka Liikanen, 6-5.
Ouais.
Hey, il y a du poids, là!
Bah oui, c'est énorme!
C'est la recette des Panthers, ça, dans les dernières années. Tu gagnes en série en étant une équipe physique, en étant une équipe qui frappe.
Ouais.
On le voit quand les Sabres jouent, là, c'est une équipe qui est pesante. Ouais, leur troisième, quatrième trio, c'est des gars qui frappent. Je vais regarder, juste pour m'amuser, là, l'équipe la plus pesante de toute la Ligue nationale. Bon, ils sont 15e, là. Pas grave.
Mais ils sont très grands.
Mais ils sont grands.
Ils sont très grands.
Ah, ça, c'est
moi,
bon,
c'est
ça,
ça,
c'est
ça
bon.
Me fait penser. Puis tu as fait le comparatif avec les Panthers. Moi, j'ai fait la comparaison dans ma tête avec les Golden Knights. En 23, quand ils ont gagné, tout le défenseur était au-dessus de 6 pieds.
Ouais, ouais.
Whitelord était là, McNabb était là, Pietrangelo était là,
Martinez.
Nick Egg, Martinez, ouais. Theodore. Ce sont tous de très grands défenseurs.
Ouais, sûrement.
Et quand le Canadien a eu du succès en 2021, mm-hmm. Ben, on parlait du top 4, le Big Four. Ben, ouais, ouais. Chirot, c'est grand. Munson, c'est grand. Weber, c'est grand.
Ben, ouais.
Même Petrie est quand même assez imposant.
Puis on s'entend pour dire que l'Est va devoir passer par Tampa. Mais Tampa, ils ont changé un petit peu leur style comme équipe. C'est une équipe qui est beaucoup plus coriace, plus robuste, plus grosse. C'est plus la même équipe d'il y a 2-3 ans. Là, ils ont été retournés chercher cette robustesse-là qui leur a permis de gagner des coupes avec les Maroons, les Coleman et compagnie.
Ouais, c'est encore l'aspect physique. Puis il y a du monde qui sort un peu de nowhere qui font en sorte que, justement, ils peuvent connaître beaucoup de succès. Tu sais, oui, Tampa, ils ont connu un certain ralentissement depuis le retour des Olympiques, mais ça va quand même être les favoris, là, tu sais.
Je reviens à Nick Dowd une seconde. Êtes-vous surpris de voir que les Capitals de Washington sont officiellement vendeurs?
Quand même.
On est à 4 points des séries. Je comprends qu'on a 3 matchs de plus de jouer, mais on se range du côté des vendeurs. Je pense qu'on évalue la situation puis qu'on voit que quand même de bonnes valeurs à aller chercher avec nos joueurs et on se dit, écoute, on s'en va dans cette direction-là. Honnêtement, j'aurais plus pensé qu'on aurait été statu quo du côté des Caps que vendeurs.
Ouais, c'est intéressant de voir ça, mais comme tu l'as dit, je trouve que on commence à réaliser qu'on a quand même des espoirs qui peuvent être intéressants pour le futur, voir aussi les pièces qui sont un peu plus vieillissantes. Probablement Nick Dowd faisait partie de ça, mais... Je pense que c'est juste une remise à niveau pour les Capitals en ce moment. Parce que l'année passée, est-ce que c'est une année exceptionnelle pour eux? On le sait pas. Ils ont été super bons. Le fighter Spencer Carberry qui a été capable de traîner ce groupe-là jusqu'au sommet. Puis ça a été solide là, en termes de performance. Les surprises de Lindgren, Thompson. Là, je pense qu'en ce moment, les Caps jouent à la hauteur de leur talent. Aussi.
Dylan Strome,
exact.
Alexis
Potas aussi.
Matt Roy.
Puis en ont des bons espoirs qui s'en viennent. Là, Andrew Crystal, le frère d'Alexis. Il y a Protas aussi qui est vraiment, vraiment solide. Là, Ryan Leonard qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ethan Frank.
Connor McMichael.
Le futur est quand même brillant là, à Washington. Là.
Mm-hmm. Ouais. Non, c'est intéressant. Hey, je fais un parallèle. On a l'impression que Ken Holland avec les Kings, parce que c'est annoncé que c'est la dernière saison d'Andy Kopitar, n'a pas le choix d'aller au bat. N'a pas le choix d'essayer de faire quelque chose. Puis là, c'est Fiala qui est perdu. Mais on avait quand même ramassé Panarin. Puis est-ce qu'il va faire d'autres acquisitions? Parce que tu veux pas que ta légende, Andy Kopitar, se retire en ratant les séries.
Ouais.
Est-ce qu'on peut en déduire qu'Alex Ovechkin va revenir dans la Ligue nationale de hockey l'année prochaine si on se met en mode vendeur du côté des Caps?
Ouais, ça, c'est vraiment une bonne déduction.
Ça a du sens pour de vrai. Parce que... Tu veux pas que ça se termine en cul de poisson pour Ovechkin, tu rates les séries puis c'est une saison décevante là.
Ouais, c'est sûr, avec tout ce qu'il a donné au club puis avec sa légende puis tout, non, ils vont vouloir pousser, c'est vrai.
Ou c'est juste que du côté des Caps, écoute, too bad for you, mais c'est une business le hockey puis J'ai hâte de voir, honnêtement. Je ne suis pas en train de faire le raccourci intellectuel. Je fais vraiment, je pose la question. Non,
c'est une question, mais c'est propice aussi à se le poser parce que c'est vrai que quand tu pars d'une saison justement où tu as été tellement bon l'année dernière, c'est un peu surprenant. Là.
OK. Autre transaction intéressante, Mackenzie Weegar, on en a glissé un mot. Moi, je déteste pas le prix qu'on paye.
C'est pas si pire.
C'est pas si pire que ça. Puis, c'est un contrat à long terme dans le cas de Weegar. Il est là pour encore plusieurs années avec le Mammouth, 5 ans de mémoire. On donne 3 choix de deuxième tour. C'est vrai qu'il y a le choix des Rangers. C'est vrai qu'il y a le choix des Sénateurs. Mais le Mammouth a tellement accumulé d'actifs et on veut passer à l'étape suivante.
Ouais. Ouais.
Tu sais, je dis pas qu'André Tourigny et Bill Armstrong jouent le poste, là. Mais à un moment donné, la reconstruction, il faut qu'elle arrive à bout. Là. Mm-hmm. Et on n'a pas encore consolidé notre place. Tu donnes des actifs, mais tu donnes-tu des si gros actifs
ben
que
c'est ça?
Ça. Non, pas de Daniel Butt là-dedans. Pas de ben Dimitri,
pas de Desnoyers. Pas de TJ Ginla.
Il n'y a pas de premier choix. Ce sont une accumulation de deuxième choix. C'est vrai, il y en a beaucoup. Mais on parle quand même d'un défenseur droitier d'Henri Plurard à long terme avec l'équipe.
Un leader.
Un leader qui va fitter dans le système d'André Tourigny. Ouais, j'ai pas de problème.
Puis je regarde Utah, ils ont encore 27, 28, 29, ils ont encore tous leurs choix. Cette année, ils ont 2 choix de 3, 1 choix de 4, 2 choix de 5. Ils ont leur choix de premier tour. Eux, ils sont bien corrects. Weegar est signé à long terme en plus.
Mm-hmm. C'est un gars qui pourra, il va pouvoir s'établir.
C'est ça.
T'sais,
moi, je voyais un petit peu Noah Dobson comme fit à Utah l'été passé. Finalement, il a été échangé aux Canadiens. Mais c'est un petit peu un genre de plan B. Là. Un défenseur droitier qui peut jouer énormément de minutes.
Bon tir.
Bon tir.
Ouais. Weegar, pas mal peut-être moins cher, mais pas mal plus vieux aussi, par contre. Là.
Exact.
Mais là, avec... T'sais, j'aime bien ce qu'on est en train de bâtir du côté de Utah.
Est-ce que c'est le dernier morceau du casse-tête, par contre? T'sais, moi, je pense qu'il y a encore un certain point d'interrogation devant le filet.
Ouais.
Il y en a même en attaque. Il y a des rumeurs comme quoi sont aussi dans la course pour Robert Thomas, Utah.
Ben, écoute, si...
Ils ont les actifs pour, en
c'est
tout
ça.
Ben,
oui. C'est ça.
Si tu es pour aller chercher Thomas, tu peux donner un dénoyé, là.
Ouais, exact. Ben, oh.
Oui.
Ouais?
Ouais.
Okay.
Ben écoute, si tu penses que ta fenêtre elle est là, t'as quand même un noyau intéressant là, du
c'est
côté.
Vrai.
Tu sais, t'as fait la transaction il y a quelques années puis Sergachev, fait que ça c'est déjà réglé.
Keller,
t'as
Cooley.
Keller, Gunter, Cooley. Mm-hmm. T'as quand même une couple de joueurs qui sont là à long terme. Et ils peuvent pas tout jouer là.
Je comprends ça. Moi c'est plus la vision comme quoi c'était si dénoyé, c'est le meilleur espoir de Utah. Si tu vas donner ton meilleur espoir contre Robert Thomas.
Ben, honnêtement, c'est quoi les odds que Desnoyers ait une aussi belle carrière que Robert Thomas?
C'est plutôt faible.
C'est vrai.
Plutôt faible.
Je comprends c'est que c'est un haut choix.
Ouais, mais c'est parce que ça serait pas un contrat.
Non, c'est sûr que ça ferait
partie d'un package. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est sûr que si Robert Thomas se retrouve avec le Mammoth, s'il n'y a rien qui se passe. Déjà là, avec l'acquisition de Weegar, c'est super intéressant pour faire un push. Mais en plus, si on s'en va chercher Thomas,
c'est
inacceptable.
Ça, c'est sûr. Puis en même temps, ils sont pas caves. Ils savent qu'ils sont dans une division extrêmement compétitive. Là. S'ils restent les bras croisés, ils vont se faire éclipser dans les prochaines années. Les Stars Dallas s'en vont nulle part. Là. On verra pour le Wild. Ça, c'est un gros peut-être. Là.
Ouais.
Mais ça va être encore tough dans les prochaines années.
Préférez-vous Mertka et un 1 pour Parayko ou 3 choix de 2 puis un espoir?
C'est quoi? On est quel clan, mettons, là? Le clan qui reçoit ou le clan qui achète?
Le
clan qui achète, 3 choix de 2.
Pour Weegar.
Ouais, moi aussi, je pense.
Qui est un joueur. Je comprends que Parayko était avec équipe Canada, mais c'est débattable de lequel est un meilleur défenseur.
Weegar a pu le faire aussi.
Weegar, c'est un travailleur honnête. Là. Il n'est pas un mauvais défenseur.
Juste un style un peu différent, plus mobile, meilleur shot.
En termes d'actifs. Évidemment, c'est une évidence. Le premier choix est meilleur que n'importe quel deuxième choix. Ça va de soi. Puis Mertka, c'est même pas proche non plus. Là.
C'est un choix top 10.
T'as donné les deux plus gros actifs. C'est sûr.
Exact.
On parle encore au conditionnel, évidemment. Là, mais c'est vrai que c'est ça pour l'instant. D'ailleurs, parlant de premier choix, Andrew Mangiapane fait ses valises et s'en va à Chicago en compagnie d'un premier choix pour Jason Dickinson et Colton Dack. Enfin, diront les partisans des Oilers, on se débarrasse du contrat d'Andrew Mangiapane. Ça fait juste une couple de mois là, qu'il a signé avec le club, mais ça a été long. Puis ça fait longtemps qu'on le sait qu'ils veulent s'en débarrasser. Puis finalement, il a fallu rattacher un premier choix à ça. Je comprends que tu mets la main sur Jason Dickinson. Je suis tout d'accord. Puis Colton Dack, ça reste un jeune.
Ouais.
C'est vrai. Mais moi, je classe cette transaction-là dans la catégorie des mauvaises transactions.
Et puis Mangiapane, c'est pareil eux qui l'ont signé cet été. Là.
Ben oui, c'est ça.
C'est pas un contrat que Stanbourne a hérité. Là.
Ben non, c'est là que
c'est lui qui l'a signé.
Exact.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais Stanbourne, pour vrai.
Qui es-tu mauvais?
Ben non, ça n'a pas de
sens. Impulsif, lui.
Il est lavé.
Avez-vous vu les transactions que Stan Bowman a effectuées cette saison-là? Fait qu'essentiellement, depuis qu'il a signé McDavid puis que McDavid lui a dit...
Sors la liste.
C'est now or never. Vas-y donc, Deso.
Il a échangé un choix de premier tour, deux choix de deuxième tour, un choix de troisième tour, Stuart Skinner, qui a rebondi, Brett Kulak, qui est allé chercher une grosse valeur pour les Pingouins, et Andrew Mangiapane, en retour de Spencer Stachny, Tristan Jarry, qui ne fonctionne pas du tout, Samuel Poulin, Connor Murphy, Jason Dickinson et Colton Dack.
Ce sont pas, je suis désolé, mais ils ne se sont pas améliorés.
C'est terrifiant.
Et ils ont bousillé leurs munitions, là.
100%.
Moi, je suis quand même avec David, je viens signer 2 ans. C'est comme si tu t'envoies un message clair à l'organisation, je te donne 2 ans. Ouais. 7 années plus 2 ans, arrange-toi pour qu'on performe. Puis là, tu envoies encore le message, hey Connor, do it yourself.
Tu sais, je comprends la transaction Dickinson-Dak. Peut-être que tu vas chercher un petit peu plus de papier sablé. Ouais, mais ça, tu viens de donner un choix de 1, un choix de 2. Vise donc quelque chose de plus gros, là.
Ouais, exact.
Ouais, le 2, c'est Murphy, là, mais on comprend ce que tu veux dire.
Tu sais, Puis là, devant les filets, son pire qu'il était au début de l'année parce que Stuart Skinner est en train de prouver qu'il est un bien meilleur gardien que Tristan Jarry. Moi, si je suis McDavid, je suis pas rassuré, puis pas en tout de ce que mon DG est en train de faire, là.
Ça fait peur, man. Puis je trouve que les Oilers, justement, sont éclipsés juste par le fait qu'ils ont un monstre à deux têtes qui produisent offensivement, qui va faire en sorte qu'ils vont toujours être un peu dans les séries. Mais du moment où, genre, ça va briser cette histoire-là, ça va être catastrophique.
Ça babonne un peu, hein, quand même, man. Ben, plus en plus, Draisaitl sort dans les médias. L'autre jour encore, là, avec Knobloch, les deux, là.
Ils sont même pas sûrs de faire les séries.
Ben, tu regardes ça présentement, ils sont chanceux dans la Pacifique. Ça veut dire qu'ils font souvent des mauvaises équipes. Ils ont 68 points en 62 matchs. Les Sharks de San Jose, qui sont la première équipe exclue, ont 64 points, donc 4 points de moins, mais en 3 matchs en main.
Ah oui, c'est fou. Hey, j'ai une question pour vous, les gars. Selon vous, quelle est la pire ambiance à l'extérieur de la patinoire? Est-ce que c'est à Toronto ou c'est à Edmonton?
Toronto.
Ouais.
Même c'est tellement corporeux.
Ah,
ouais.
Toronto, c'est sûr, Toronto.
OK.
Puis même, je te dirais, dans la patinoire aussi.
Ouais.
Ah, Toronto, c'est toxique.
Ouais.
C'est
On en parle de Toronto, là.
Vas-y,
parce que là, c'est ça. Fait que là, hier, Ekman Larson, Lawton et Bobby McMahon ont été retirés de l'alignement parce qu'on risque fort probablement de les échanger. J'ai lu tantôt que McMahon cherche un contrat à la Kiefer Sherwood. Donc
ouais,
on parle
de 5-6
millions de dollars. Ouais. Nicolas Roy aussi a échangé. On parle d'un choix de premier tour et un espoir.
Ça aussi, c'est un gars qu'on vient d'aller chercher.
Ouais, exact.
Ouais, mais dans un contexte différent.
Oui, c'est sûr.
Il liquide les actifs, facile à liquider, mais
les autres sont pas bougeables.
Le noyau, le cœur du problème, pour moi, ça va rien changer. C'est pas échanger Bobby McMahon qui va faire en sorte que l'an prochain, on va se remettre à gagner.
Le Bobby McMahon, c'est pas un mauvais joueur.
Ah,
c'est
c'est ça qu'il disait, c'est qu'il est sur le marché, mais 5,75 pour Sherwood. Cervelli disait, peut-être qu'on est capable de s'entendre avec McMahon dans le coin de 5 millions. C'est un contrat qu'on trouve quand même favorable comme comparatif. On va peut-être poursuivre l'association. On verra. Nicolas Roy pour un choix de premier tour et un espoir. Écoute, si t'es capable d'avoir ça comme retour pour Nicolas Roy, c'est pas piqué des verres, honnêtement.
Ben non,
là.
Non.
Mais c'est un gros si. En même temps, Michael McCarron a rapporté un choix de deuxième tour.
Oui. C'est fou. La seule chose rendue là, à ce point-ci, la seule chose qui pourrait les aider, c'est que tu coules tellement que tu t'en tires avec un choix top 5.
Ouais, c'est
parce qu'on vous rappelle que leur choix de premier tour est top 5 protégé à cause de la transaction Brandon Carlo. Sinon, ça s'en va aux Bruins. Fait qu'en ce moment, ça se dirige pour être comme le 7e choix qui s'en va aux Bruins. Mais si t'es assez mauvais, tu continues à perdre. Puis là, tu repêches top 5, puis tu réussis à mettre la main sur... Peu importe, là, on verra ce qui se passe avec la loterie, mais...
Ah, mais c'est quasiment impossible. C'est... Honnêtement, ils ont 65 points présentement, puis pour terminer top 5, il faudrait qu'ils obtiennent... Ils ont 9 points de priorité, là.
OK.
Ça va être tough.
Oui. C'est écrit dans le ciel pour moi. 6e choix, Bruins de Boston. On sent la catastrophe.
Tu sais, on parlait tantôt de Colton Parayko, puis je pense que les Sens ont trop payé. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Je pense qu'ils veulent vraiment faire un push, mais je pense qu'ils ont trop payé. Mais au moins, tu mets la main sur un défenseur fiable qui, oui, qui prend de l'âge, mais qui devrait être encore bon pour quelques années.
Ouais.
L'année passée, les Maple Leafs, essentiellement, ont fait la même transaction.
Ouais.
Ouais.
Fraser Minton, c'est pas un mauvais espoir.
Non.
Peut-être pas au même calibre que Mertka, mais pas loin quand même.
Ouais.
Plus un premier choix, plus un quatrième choix. Pour Brendan Carlo, qui a fait partie du problème cette année à Toronto.
Mm-hmm. Puis on s'entend que Parayko est bien meilleur que.
Mais ça, c'est le problème de les directeurs généraux et nous, les partisans, là, je nous inclus, on tombe un petit peu aveuglés à la date limite parce qu'on veut déballer un cadeau, parce que tu veux le new shiny toy, tu veux jouer avec un jouet qui est tout frais, tout nouveau, tout beau. Mais des fois, tu ne te rends pas compte sur le coup que, OK, j'ai dépensé beaucoup d'actifs pour finalement un joueur qui ne m'aidera pas tant que ça sur le long terme.
Non.
C'est ça, je me souviens, il y a une couple d'années, Tomáš Kaberlé.
Ouais.
Avant qu'il débarque à Montréal, il est allé faire un tour en Caroline. Mm-hmm. Il avait été quand même acquis à gros prix. Là.
Mm-hmm.
Il s'est rendu compte du côté des Hurricanes que c'était pas le cas pantoute. On s'en est débarrassé avec le Canadien pour Jaroslav Spachek.
Ouais, exact. Mais c'est vrai, tu sais. Puis c'est naturellement une question de circonstances là-dedans. Buffalo, c'est que c'est comme une première en 15 ans. Mais est-ce qu'ils sont assez. Tu sais, je trouve qu'ils sont quand même relativement assez confortables pour être capable de faire ce genre de move-là. Là, c'est sûr, tu perds Mirtka, qui est probablement ton meilleur espoir à défensive. Ce qui fait en sorte que, là, oui, c'est un petit compromis. Mais en même temps, si tu peux te permettre d'avoir un push dans les bonnes années de Parayko, good.
Mm-hmm.
Mais c'est pas avec toutes les équipes que tu peux faire ce genre de move-là. Buffalo, c'en est une. Mais des équipes qui vont push ou qui ont une historique de mauvaise décision, ben là, c'est sûr que c'est n'importe quoi. Il n'y a pas d'introspection qui se fait. Il n'y a pas un pas vers l'arrière puis juste faire OK. Là, comment qu'on peut juste réaligner?
Mais c'est une question de casting aussi. Regarde les Panthers l'an passé. Ils ont swingé fort pour aller chercher Seth Jones. Mais Seth Jones, c'est vraiment un bon défenseur. Là. Si le joueur vaut la peine, c'est correct de donner, mais Brandon Carlo, c'est un 4-5 défenseur.
Ouais, mais c'est la même affaire qu'il y a une couple d'années. Ça, c'était un 1er juillet. Le meilleur défenseur disponible sur le marché, pas mal unanimement, c'était Carl Alsner.
Ouais.
Ouais.
Et là, Marc Bergevin s'est dit, OK, je suis quand même déplumé en défensive, je sors la palette, je vais chercher le gros poisson.
Ouais.
Mais ça se peut que le gros poisson de la cuvée d'agents libres, finalement, cette année-là, soit pas si hot que ça. Non. Et là, tu te fais mal parce que moi, c'est pour ça que Kent Hughes, l'année passée, il a fait aucune transaction. Va-t-il en faire cette année? On le verra dans les prochaines heures, mais c'est des grosses journées à faire des gaffes. Puis si tu te trompes, tu peux reculer d'un an ou deux dans ton développement.
Ouais, puis il y a plein de raisons qui peuvent mener à des gaffes. Justement, là, la hausse exponentielle là, du plafond salarial fait en sorte que les DG peuvent dépenser autant qu'ils veulent. Ouais. Ça aussi, ça fait peur. Là. Puis après ça, ça crée des standards pour les joueurs. Fait que là, les demandes vont être complètement stupides.
Ben, comme Kiefer Sherwood là, qui vient de signer pour 5-6 millions.
5,75.
Ouais. Exact.
C'est un bon joueur, Kiefer Sherwood. Il amène de la hargne. Puis je pense qu'à San Jose, le plafond salarial est loin d'être un problème. Fait qu'à court terme, c'est correct. Mais après ça, ça set un précédent parce qu'après ça, t'as des Bobby McMahon puis t'as d'autres joueurs de milieu d'alignement comme ça qui se disent « Hey, moi, je vaux ça. » Tu sais, Alex Newhook, ça se peut qu'il ait dans deux ans, quand il soit agent libre, il demande 5 millions. Là,
ouais, mais je pense que Sherwood à San Jose, ça s'inscrit dans cette lignée-là d'équipe qui a besoin de vétérans pour entourer un groupe de jeunes.
Ouais, mais ils sont rendus là aussi, San Jose, exact.
C'est quand même une équipe qui là, aspire à faire les séries. Moi, je leur souhaite. Je vais prendre San Jose 1000 fois avant Seattle en playoff. Mais tant qu'à signer Tyler Toffoli le gros montant, puis les Blackhawks ont fait le même exercice quand ils ont été chercher Nick Foligno puis Corey Perry il y a une couple d'années.
Mm-hmm.
C'est comme, on surpaye, c'est vrai, on est conscient, on surpaye. Mais on va chercher un mentor. C'est quasiment un joueur-entraîneur, si tu veux.
Ouais,
ouais, t'as raison.
Fait que je le vois un peu comme ça, Sherwood. C'est sûr que dans 3-4 ans, 5-75, ça va être moins cool. Mais à court terme, si ça fait en sorte que Michael Misa, que Macklin Celebrini, que Will Smith, que Sam Dickinson, que Yaroslav Askarov, que toute cette belle gang-là se développe de la bonne façon, capable de vivre.
Ils vont être tellement bons.
C'est ça, t'investis pour avoir un bon environnement, puis moi, ça m'amène au point que tu peux encore plus lancer des fleurs à Kent Hughes, qui est capable d'évaluer constamment la juste valeur puis de négocier un prix qui a de l'allure pour ses joueurs. C'est pas normal, tu sais, comme...
Alexandre Texier.
Sauf Texier, ouais. Le Texier, c'est
ça. Ouais, mais ça,
mais en même temps, 2 millions, c'est pas si pire.
2,5.
2,5, c'est vrai. 2,5.
Mais oui, on est tous d'accord sur Texier, là. C'est 2 ans.
C'est ça.
On verra. On verra comment ça va tourner.
Mais justement, parlant du Canadien, là, c'est quoi votre réaction si demain, on apprend 15h-5, ils font l'acquisition de Luke Shen? À quel point est-ce que c'est important pour vous? En fait, c'est ça ma question. Hein, qu'ils doivent absolument bouger. Si c'est le statu quo, vous allez être déçus, puis vous allez être comme « Ah, je suis pas content. »
Non, je serais pas déçu.
Le statu quo, est-ce que ça vous dérange?
Je serais déçu si on était vendeur.
Ouais.
Ça, je serais déçu. Je serais pas déçu le statu quo parce que cette année, Kent Hughes, on vient d'en parler, a fait l'acquisition d'Alexandre Texier. Philippe Dano, Noah Dobson et Zachary Bolduc.
C'est ça, là.
Fait que c'est quand même... On ne peut pas dire que le directeur général n'a pas essayé quelque chose.
Non, c'est ça.
Fait que moi, je ne pourrais pas dire que je serais déçu, honnêtement. Surtout si tu m'arrives... Tu sais, j'en parlais avec Marty, là. Pour les gens qui ne savent pas, Marty du podcast Processus, tu es un grand fan du Wild.
Ouais.
Imagine sa réaction là, quand il a vu Michael McCarron pour un choix de deux. Il devait pas être content. Ben non, des fois, transaction pour transaction, là, c'est pas mieux non plus. Là.
Non, c'est ça. Puis tu sais, j'aimais un point que vous avez souligné un matin, qui était le fait que, est-ce que finalement, Luke Shen, si on arrive, c'est pas trop donné, puis c'est un apport à la David Savard, là, tu sais, comme un genre de grand frère pour la brigade défensive, ça aussi, tu sais. C'est pour venir stabiliser, puis juste être capable d'amener un petit spark, là, ça peut être intéressant, mais autre ça...
Mais tout est une question de prix. Si tu oui, dis Luke Shen pour un choix de 4...
Bon, ouais, c'est ça.
All right. C'est cool, on va l'essayer. Pick va arriver, ça fonctionnera pas. Ouais. Il va être sa galerie de presse, puis on aura perdu un choix de 4.
Mm-hmm.
On est le Canadien de Montréal avec tous les actifs qu'on a pu accumuler au cours des dernières années. On peut très bien se permettre ça.
Exact. Et si c'est Zach Whitecloud pour un choix de 1, puis un prospect B, ouf.
Ça, c'est intense.
Ouais, mais d'ailleurs, à ce niveau-là, Frank Cervelli a mentionné que, sans surprise, maintenant que Uyghur a quitté, ce serait surprenant que Whitecloud soit échangé du côté
de l'équipe. Il va avoir des plus grandes responsabilités, c'est
exact.
Sûr.
C'est dommage parce que, tu sais, on a fait l'exercice là, il y a une couple de semaines, deux semaines de ça, je pense, où est-ce qu'on y allait d'une prédiction audacieuse et une prédiction réaliste. Puis moi, j'avais avancé Whitecloud dans les prédictions réalistes parce que je trouvais que c'était un défenseur sous-estimé.
Ouais.
Qui bouge bien la rondelle, qui a un bon gabarit, qui a une tête ses épaules, puis qui est parfait sur la troisième paire. Moi, c'est une cible que j'aurais aimé pour le Canadien, mais malheureusement, ça risque d'être impossible.
OK, j'y vais complètement champ gauche, là. Adrian Dater, qui est un journaliste quand même très respecté, là, du côté de Denver, il couvre l'Avalanche depuis longtemps. C'est comme le gros journaliste sur le beat de l'Avalanche. Il mentionne beaucoup depuis 24-48 heures que Valérie Nichushkin pourrait être échangée. Nichushkin, talent incroyable. Quand l'Avalanche avait gagné la Coupe, on s'entend que c'était un joueur, un de leurs meilleurs joueurs, monstrueux.
Ben oui, il y a eu un impact tout de suite.
Bon, certains enjeux personnels par la suite. Est-ce que vous aimeriez le voir, on va dire, à Montréal, un gars comme Valérie Nichushkin?
Ben, tu vois, si c'était moi le directeur général, je serais stressé. Ouais. Mais Kent Hughes, j'ai très confiance qu'il va s'assurer de prendre toutes les précautions. Est-ce que mon groupe est assez fort? Est-ce que mes leaders sont d'accord? Est-ce que Martin Saint-Louis pense être capable de le diriger? Et si on en vient à la conclusion que oui, ben, je serais content de voir débarquer Nichushkin. Parce que dans cet environnement-là qui va être contrôlé et encadré, si on est capable d'avoir un Nichushkin qui contribue, c'est un des attaquants de puissance dans la ligue. Là.
Ah, puis il fit parfaitement sur le premier trio
directement,
avec Suzuki Caulfield.
Ben oui, mais le niveau de talent
si on avait, mettons qu'on revient il y a quelques années puis on n'a pas... Mettons, on a Marc Bergevin encore comme directeur général, puis mettons, on a Dominique Ducharme comme entraîneur-chef, et qui t'amène Nichushkin, ou un Guy Carbonneau, mettons, qui était peut-être moins bon sur la communication, là, c'est ce qu'on y reprochait beaucoup. Ben là, je serais plus stressé. Je serais comme, hey, ça va-tu venir empoisonner mon vestiaire? On se souvient que le Canadien a déjà eu des clics de Sakuka et vous, Craig Rivet contre Théo, puis Ribeiro, puis Dagenet. Ben, le Canadien me semble uni et soudé présentement, fait que je serais moins stressé d'avoir un gars comme ça qui parle le passé, il a pu avoir des écarts de conscience.
Exact. Puis tu sais, je veux dire, on l'a vu, s'il a décidé de prendre une chance avec Patrick Laine, ça veut dire qu'il avait assez confiance en son groupe pour que ça ait pas trop un impact, puis ça puisse même aider le club. C'est arrivé de manière éphémère. Puis
pas le même genre de bébite, mais oui.
Non, mais tu sais, c'est
non,
ça.
Pas
ça
le peut même être genre une... de bébite,
non,
tout.
Mais ce que j'avais dit...
Laine, c'est pas un mauvais gars, là.
Ben non, pas du tout.
Un peu bizarre.
Ouais, ouais, c'est vrai. Mais les gars, les fusils sont illégaux au Canada. Fait que on devrait pas avoir de troubles.
Ouais, mais il y a d'autres choses illégales. Je pense que Valérie Nichushkin n'avait pas peur de ça.
Non, je pense pas.
Un couple de petits trucs en rafale. Connor Garland intéresse beaucoup. Moi, je serais pas surpris. Tu sais, les équipes qui aiment les Skills, là.
Mm-hmm.
Les Devils, les Islanders.
Ouais.
Ce genre de formation-là devrait être assuré dans le cas de Garland. Eric Halla, qui a bien fait aux Jeux olympiques, pour être une prise, là, si tu rates sur Trocheck, tu rates sur Ryan O'Reilly, tu rates sur Robert Thomas, peut-être à faible coût, Eric Halla pour être intéressant pour une coupe de formation. Mais un gros poisson qu'il faut absolument qu'on parle, c'est Sergei Bobrovsky.
Mm-hmm.
Les Panthers l'ont avancé. Bobrovsky serait disponible sur le marché. Mais je pense pas que les Panthers... Je pense qu'ils ont trop de respect pour Bobrovsky pour juste l'échanger pour l'échanger.
Ouais,
ça va prendre une bonne offre pour le faire quitter les Panthers de la Floride.
Ouais, puis ça va être aussi un autre scénario de où tu veux aller, on va s'arranger pour que ça marche. Là, un peu comme...
Pas impossible.
Ah ouais, tu dois ça au moins. Ouais. Là.
Exact, là, tu sais. Avec deux coupes, puis un Vizina, puis...
Je serais curieux de savoir si même il re-signe pas là, cet été, par exemple, s'il a été changé.
Ouais,
parce que les Panthers, je comprends que là, ils déçoivent cette année, puis là, on a appris qu'ils risquent d'être vendeurs, mais leur noyau est encore assez jeune. Là. C'est tous des gars fin vingtaine, début trentaine. Les Kachuk, les Barkov, les Verhaeghe, les Reinhardt, Bennett, tout ça, Ekblad en défense. L'an prochain, ils peuvent être bons encore, les Panthers.
Ouais, ben, tu sais, Ekblad est quand même un peu plus vieux, là, mais...
Ben, 29? Il était repêché en 2014.
30-31, c'est vrai.
Oh, j'aurais pensé 31.
Ouais, c'est vrai, parce que McDavid, il y a 29.
Un peu. Dire ça à l'instant.
C'est le premier choix 2014.
Non, 30 ans pile. 30 ans pile. Mais c'est intéressant, pareil, ce que tu dis, parce que il y a bien des gens qui pensent que les Panthers, la fenêtre est fermée. C'est zéro le cas. Là.
Non, mais ils se sont fait briser les jambes au début de l'année aussi avec Barkov. Il n'y avait pas de momentum pour commencer.
Et ça, ça avait été vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais random, pendant les Olympiques, la clause du choix de premier tour des Panthers qui avait été changé aux Blackhawks pour Seth Jones avait été sortie. Je sais pas pourquoi on l'avait pas annoncé un an plus tôt quand la transaction avait été annoncée. Et c'est quand même un choix qui est top 10 protégé. C'est ça, finalement?
C'est la fois de même. Je l'ai pas par cœur, mais moi aussi, j'ai fait... Comment ça qu'on savait pas ça?
Ouais, ça avait été vraiment bizarre. Normalement, la Ligue est assez transparente à ces niveaux-là où quelqu'un finit par
ouais, toutes les informateurs le sont. Hein.
Mais ils ont leur choix. Si jamais ça va vraiment mal, puis disons qu'ils repêchent haut, ils vont être corrects, les Panthers. Fait que raison de plus de soi, après ça, utiliser ce haut choix-là pour l'échanger, pour mettre la main sur un joueur que... Ben, dès maintenant, va pouvoir t'aider, je parle plus de cet été.
Ouais.
Ou bien encore, tu repêches quelqu'un de bon et jeune parce que, tu sais, le noyau dur des Panthers, il veut être compétitif pour encore plusieurs années. Il y a vraiment juste Bobrovsky puis Marchand qui sont plus vieux.
Qu'est-ce que ça vaut, Bobrovsky, sur le marché? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher pour un gardien de but? Dans le passé, les gardiens, on dirait que ça n'a jamais vraiment la cote. Mais là, on parle quand même d'un gardien qui a gagné le Vézina, qui a gagné des coupes, qui a prouver qu'en série, il est capable de faire la différence. Il y a quand même une coupe d'équipe qui serait intéressée à ses services. Plus difficile à rentrer au niveau de la masse à 10 millions, mais quand même.
Ouais, ça va être intéressant. Est-ce qu'on parle de choix de deuxième tour? Moi, je trouve que c'est quand même gros.
Après moi, ça vaut plus que ça.
Ah ouais, moi, j'allais dire, je trouve que c'est quand même gros de donner un premier tour pour un gardien, même si ça peut être le meilleur gardien au monde. Puis tu peux compenser avec des espoirs.
Parce qu'on le dit souvent, regarde, dans les dernières années, les gardiens sont pas partis pour beaucoup. Là, les Hallmark, les Gibson, les...
Je suis d'accord, mais là, on parle de Sergei Bobrovsky. Puis c'est pas juste ça aussi. Des fois, c'est un avantage d'avoir un contrat à long terme. Il y a bien des équipes qui sont contentes d'avoir un joueur comme, mettons, Uyghur ou Pareko.
Ouais.
Tu fais l'acquisition, mais tu le payes pas comme un joueur de location. Tu l'as pour plusieurs années. Mais il y a aussi l'inverse qui est aussi vrai. Quand tu as un lourd contrat comme ça à 10 millions... Mais tu peux avoir les Panthers qui retiennent 50% du salaire et on l'ajoute juste pour notre run-là de série parce qu'on ne serait pas capable de se le payer à long terme.
Mm-hmm.
Il y a peut-être des équipes comme ça qui pourraient se dire « Hey, Bobrovsky... »
C'est vrai que ça, c'est un aspect intéressant. L'aspect salarial, c'est clairement un arme de négociation.
Moi, je pense que ça vaut au moins un premier choix.
Ouais, t'as raison. Tu sais, anyway, ça va être un choix de fin de première ronde.
Ouais,
fort probablement, mais ça peut donner espoir aussi.
Oui,
c'est ça. Pêcher, qui a été... tu sais, mettons les sables, là.
Ouais.
Hugo Pekka-Luukkonen, es-tu confiant?
Ouais.
Mais si, non, mettons, mais Alex Lyon, mais oui.
Ouais, mais quand même, tu comprends? Mettons que tu veux vraiment être sérieux, puis tu me dis, ça coûte, je sais pas, ça coûte Zach Benson, puis un choix de 3 pour mettre la main sur Bobrovsky.
Hey, ça devient intéressant.
Tu y penses, là?
Ben oui. 100%.
Et Benson, c'est un ancien first pick, quand même assez élevé. Moi, je pense qu'il y a moyen de s'arranger, honnêtement. Puis, si t'es les Panthers, comme t'as dit, tu relâches un coup de fil le 1er juillet, puis c'est pas plus compliqué.
Oui, parce que après ça, ils ont plus Spencer Knight, fait qu'ils ont plus de gardien d'avenir.
Non, c'est Daniil Tarasov, puis Daniil Tarasov.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, ça, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils regardent dans cette direction-là dans les prochaines années.
Ben, puis, tu sais, ça avec, mais tu sais, un espoir de premier plan comme gardien aussi, là, ça peut être intéressant. Mettons, là, je dis n'importe quoi, là. Mais tu sais, John Gibson est blessé à Détroit, puis on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ah, puis Détroit, ils en ont des bons espoirs dans le filet, tu sais, un genre de négociation pour un trade
Sébastien Augustine Cossa,
Sébastien Cossa, ça pourrait être intéressant. Je pense pas qu'il va y avoir un trade dans la division qui va se faire, mais quand même, tu sais. Puis, c'est vrai, Bobrovsky mérite un. Il pourrait mériter un choix de premier tour, Il y a une poignée de gardiens de but, par contre, dans la ligue qui mérite un shot de premier tour. Là.
Ouais.
Genre,
Vassi... Il vient quand même de gagner deux coupes.
Ouais,
aussi,
non, non, mais c'est ça. Écoute, c'est pas rien.
Non. Il y a le résumé qui vient avec.
Instantanément, tu fais de ton équipe là, une énorme différence. Là,
oui.
Je veux pas. Tu débarques Bobrovsky à Montréal.
Ah ouais.
Ben, c'est ça change tout. Là.
Ben oui, c'est un des meilleurs gardiens de sa génération.
Ça change tout. Là. Puis même si c'est juste pour un printemps, je comprends que c'est pas tout le monde qui aime les joueurs de location. Là. Puis moi, le premier, là, je pense pas que Montréal est prêt à payer un énorme prix pour un joueur de location, ce qu'on appelle un rental. Mais la réalité, c'est que demain matin, tu me dis Sergei Bobrovsky, t'es avec le Canadien de Montréal, je vais te dire, ben, le Canadien de Montréal est une bien meilleure équipe. Là.
C'est sûr,
ben
oui, à fond. C'est sûr. Moi, même chose avec Jordan Binnington.
Non.
Oui.
Non. Non.
Mais attends, c'est pas.
Mais explique-toi.
Non, mais t'as pas besoin de m'expliquer. Tu sais que je l'aime pas. C'est...
Ouais. Ah ouais?
C'est quand même
le combien de 4 nations, Bobrovsky?
Trop pas juste.
Il y a même pas été juste. Choisi aux 4 nations, Bobrovsky.
Ouais, c'est pas juste.
Pour ceux qui suivent pas, la Russie était pas là.
Ouais, exact.
Une chance, t'es là.
Exact. Merci de nous préciser.
Une chance, t'es là, man.
Très fort. OK, ça fait le tour, les gars, pour notre podcast en route vers la date limite. On va essayer de sortir ça le plus tôt possible pour que ce soit le plus pertinent possible. Et on a bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour revenir sur les différentes transactions. Juste avant de vous laisser aller, je veux vous rappeler, rappel important, si vous aimez BPM Sport, on a la marchandise qui est disponible.
Elle est vraiment belle.
Casquette, hoodie, t-shirt, parfait pour représenter la gang, donc c'est disponible sur la section boutique. Ou sinon, vous avez juste à scanner le code qui apparaît présentement à l'écran, ça va vous amener vers la boutique, puis ça permet non seulement de supporter BPM Sport, mais de montrer que vous faites partie de la gang. Puis ça, ben, ouais, on l'apprécie.
Oui, monsieur.
Merci. Vraiment du beau stock. T'sais, c'est pour ça qu'on aime le porter, nous. Fait que, let's
exact.
Go.
Merci, Oli. Merci, Hugo. Merci à vous à la maison. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Radar.